Merci beaucoup, bonjour. Je suis heureux d'être là, je découvre votre rencontre, c'est la première fois que j'y assiste et je suis impressionné par le nombre que vous êtes. Cela dit, nous sommes à ce moment de la journée où la digestion dont on vient de parler alourdit un peu les paupières. Alors nous allons travailler ensemble, vous et moi, je vais faire ma part. Pour vous laisser éveiller, et j'espère que vous ferez la vôtre. J'ai choisi de brasser large. De brasser large en traversant le Nouveau Testament et en m'interrogeant sur les images de Dieu chez Jésus, Paul et Jean. Jésus, bien sûr, parce que il fut, sinon le fondateur, du moins la source du christianisme, le fondement du christianisme, et que le christianisme vit d'un perpétuel retour à cette figure originaire. C'est donc par elle qu'il s'agit de commencer. Ensuite, Paul et Jean. Parce que Paul et Jean sont deux interprètes extraordinairement doués de Jésus, et qu'ils ont les deux adopté une posture délibérément post-pascale. D'un point de vue méthodologique, je vais vous faire grâce de l'appareillage technique que j'ai développé pour vous présenter ma conférence, mais il est vrai que l'accès est assez différent. Le discours de Jésus de Nazareth doit être reconstitué derrière le texte des évangiles. C'est la quête du Jésus de l'histoire. Le discours de Paul se déploie, lui, dans son argumentation, ses épîtres. Et le discours de Jean sous-tend le dispositif de son récit et doit donc être reconstruit derrière son récit. Je ne vais pas seulement juxtaposer ces trois images de Dieu, je vais tenter aussi de les mettre en relation. La question pour moi est, Paul et Jean ont-ils été des interprètes fiables de Jésus de Nazareth? Comment et en quoi Paul et Jean ont-ils rendu compte de l'image de Jésus de Nazareth, quelles sont les continuités et les discontinuités. Inutile de dire que nous allons avancer à grandes enjambées et nous abordons le premier des trois chapitres, Jésus. La recherche récente sur Jésus de Nazareth, qu'on appelle la troisième quête du Jésus de l'histoire, donc là, cette recherche récente de Jésus de Nazareth depuis 1980 a mis en évidence la judaïté de Jésus, vous le savez. Jésus ne fut pas le premier chrétien, mais il fut juif. Même marginal, il fut un juif à 100%. Il s'est inséré dans la confession de son peuple, la confession au Dieu créateur, la confession au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a choisi son peuple et l'a appelé hors d'Égypte. Ce Dieu confessé dans les Écritures, célébré au temple et à la synagogue, ce Dieu dont la Torah guide le peuple dans son comportement quotidien. Donc Jésus s'inscrit très exactement dans la tradition d'Israël et il utilise les images, les métaphores de son peuple pour dire le Dieu créateur et le Dieu de paix. Donc Jésus va reprendre l'imagerie divine que livrent les Écritures et que véhiculait en son temps la catéchèse des scribes. Elle nous est connue par les propos des rabbis, consignés dans cette somme de l'érudition juive qu'est le Talmud, parler d'un roi et de ses serviteurs pour évoquer le rapport entre Dieu et son peuple est usuel. De même, parler d'un rapport entre un patron et ses ouvriers, parler de la vigne pour évoquer Israël est aussi classique, ou de l'époux pour évoquer le Messie. En tout cela, ce qui constitue, vous l'avez repéré, des métaphores utilisées dans les paraboles, Jésus suit fidèlement le langage et les métaphores divines de son peuple. On relève toutefois une particularité, c'est que Jésus va immerger ses métaphores dans la vie quotidienne. il va les immerger. C'est-à-dire que Jésus va partir parler de Dieu, encore une fois, notamment dans les paraboles. Jésus va parler de Dieu à partir des réalités et des problématiques de ses interlocuteurs. Dit autrement, c'est le monde de ses interlocuteurs qu'il va investir dans le récit parabolique pour dire Dieu. C'est intéressant. Jésus va parler de Dieu comme Père. Oui, mais ce Père-là, dans la parabole dite des deux fils, a des conflits d'héritage avec ses deux fils. Jésus va parler de Dieu comme maître d'une vigne. Oui, c'est classique. Mais ce maître d'une vigne va engager des chômeurs. Et c'est la parabole des ouvriers de l'ancien monde. Il va parler du Dieu berger, oui, mais ce berger s'inquiète parce qu'il a perdu une brebis sur les 100. Il va parler du Dieu maître de maison, oui, mais c'est le maître dont l'intendant auquel il a chargé doté du mandat de veiller sur la maison abuse de son pouvoir envers les serviteurs et les servantes. Bref, Jésus utilise le langage métaphorique de son peuple pour dire Dieu, mais il emprunte la voie de la vie ordinaire. Ce sont les métaphores qui sont issues du monde des petits paysans, des pêcheurs, des artisans galiléens auxquels il s'adresse. Donc il va familiariser les métaphores. Et un langage si familier d'ailleurs que Jésus va abandonner le langage majestueux et un peu pompeux dicté par la liturgie juive pour s'adresser à Dieu. La prière qu'il apprend à ses disciples use du titre le plus familier, vous le savez aussi, qui est Abba, c'est-à-dire Papa. Voilà une première chose à dire sur son utilisation du langage pour dire Dieu. Du point de vue de sa fonction religieuse, Jésus ne fut ni prêtre, ni légiste, ni rabbi, mais il fut un prédicateur de conversion. Prédicateur de conversion dont les évangiles synoptiques condensent la prédication. Je vous lis l'évangile de Marc, Marc 1, 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous. » Et là, les premiers chrétiens ont ajouté « et croyez à l'Évangile ». Prédicateur de conversion. Sociologiquement, le cas n'est pas unique. L'historien juif Flavius Joseph nous parle de nombreux prophètes de conversion, de nombreux prophètes du signe messianique. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés entre la mort d'Hérode le Grand, moins 4, et la déposition d'Archélaüs, plus 6, ils se sont multipliés autour de l'ère chrétienne. Le plus proche de ces prédicateurs, prédicateurs de conversion fut Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur, dont Jésus fut un disciple. C'est effectivement Jean qui va baptiser Jésus et l'intégrer dans son groupe de disciples. En feuilletant les évangiles synoptiques, on repère de très nombreux points communs. De très nombreux points communs entre Jésus de Nazareth et Jean le Baptiseur. Tous les deux animent un mouvement populaire de réveil. Tous les deux annoncent la venue proche, très proche du règne de Dieu, et appellent à se convertir en fonction de cette venue proche. Pour tous les deux, Jésus et Jean, le statut de fils d'Abraham n'assure pas automatiquement le salut. Jean, comme Jésus, vont briser cette sécurité du salut, cette sécurité sotériologique attachée à l'appartenance au peuple d'Israël, Ils vont dès lors rompre avec l'eschatologie nationaliste. Et d'ailleurs, le baptême de Jean le Baptiseur, c'est un talisman pour se prémunir de la colère du Messie qui vient. Donc, de nombreux points communs. Néanmoins, entre Jean le Baptiseur et Jésus, on note trois différences considérables. La première, c'est que Jésus n'est pas un ascète. Jésus ne se retire pas dans le désert, mais il est ouvert à tous. Et on va le reprocher à Jésus de ne pas jeûner. On va lui reprocher de festoyer avec des hommes et des femmes de mauvaise réputation. On va même le traiter de glouton. Jésus parle de Dieu lors des repas. Jésus fréquente les mariages. Jésus fréquente les fêtes. Donc, première différence, Jésus va situer son discours sur Dieu au cœur de la vie et non pas dans une retraite désertique à la manière de Jean le Baptiseur ou plus fort encore à la manière de la communauté de Qumran. La deuxième différence, c'est que Jean annonce la conversion sur le fond de la colère de Dieu. C'est parce que le Dieu qui vient, le Dieu proche, est le Dieu de colère. Vous savez peut-être à l'esprit, Luc le rapporte au chapitre 4, l'une de ces métaphores qu'utilise Jean le Baptiseur, la hache, la cognée est déjà sur le tronc de l'arbre. Qu'il s'agit de se prémunir de cette colère, de se baptiser et d'adopter une vie fidèle à la Torah. Le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu de colère. Le Dieu de Jésus est le Dieu de grâce. Le Dieu de Jésus est le Dieu de l'amour sans limite. C'est aussi le Dieu du jugement. Oui. Mais Dieu juge parce qu'il est le Dieu de l'amour sans limite et qu'il appelle sans restriction et sans discrimination. C'est le Dieu qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est le Dieu qui fait briller son soleil sur tous. Il y a dans le discours de Dieu, le discours théologique, le discours sur Dieu de Jésus, un primat de l'amour. Et ce primat de l'amour, il est manifeste non seulement dans son discours, mais dans ses fréquentations et dans ses miracles. On en reparlera tout à l'heure. C'est donc la seconde différence. Jésus met en avant un Dieu de l'accueil et de l'amour sans limite. Et puis une troisième différence. Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors la royauté de Dieu vient de vous atteindre. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors la royauté ou le règne de Dieu vient de vous atteindre. Luc 11, verset 20. Jésus ici parle de ses exorcismes. Et le doigt de Dieu, c'est ce doigt qui chasse les esprits impurs. Donc, les actes d'exorcisme de Jésus viennent mettre fin au pouvoir des démons. Jésus fait intervenir le règne de Dieu qui atteint l'humanité parce qu'il a ce pouvoir de faire reculer la présence du mal. L'exorcisme est en effet ce combat titanesque dans lequel le prophète charismatique vient faire reculer le mal qui envahit l'individu. Même si nous quittons cette explication mythologique, le phénomène de l'aliénation est un phénomène que tous les psychiatres décrivent à l'envie. La dépossession d'un individu par un pouvoir qui l'envahit est un phénomène que l'on peut soit décrire mythologiquement, soit décrire psychiatriquement. Donc, ça signifie que Jésus n'est pas seulement celui qui annonce un royaume qui va venir, mais au travers de ses paroles et surtout de ses gestes, ce royaume vient de vous atteindre. Donc, on voit que Jésus, ici, fait subir ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de conception, face à la manière dont, non seulement Jean le baptiseur, mais le judaïsme de son époque parlait du royaume. Ce royaume n'est ni réservé à Israël, ni assuré à Israël. Il faut se convertir. Ce royaume, contrairement à ce que dit la foi apocalyptique, n'est pas un espoir futuriste, mais il intervient dans le présent. Il envahit le présent comme un futur qui projette son ombre sur le présent. Et c'est ce que racontent les paraboles. C'est l'espoir, l'attente d'un Dieu qui accueille sans réserve. Et du coup, le message de Jésus va être possédé par une urgence, par un excès. C'est tout de suite, c'est maintenant. Si tu vas au temple, Matthieu 5, rentre ton offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, reviens donner ton offrande. Il y a une priorité inconditionnelle, une priorité qui ne se discute plus. C'est ça l'urgence. Si tu vois un homme à demi-mort, blessé sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, arrête-toi. Et même si tu es samaritain et qu'il est judéen, il est urgent de prendre soin et d'entendre sa détresse. L'urgence. La conception que Jésus a du règne, elle est, je dirais, productive et paradoxale. Jésus annonce un règne productif et paradoxal. Par ses miracles, les guérisons et les exorcismes. L'objectif de Jésus, c'est de restaurer l'humanité blessée en affrontant le mal. Jésus va dès lors dissocier Dieu de la souffrance humaine, puisque vous le savez, à l'époque, Dieu était associé à la maladie et au handicap, qui étaient expliqués comme des sanctions divines sur l'individu. Et donc Jésus va dissocier Dieu de la souffrance, de la maladie et du handicap, en plaçant Dieu du côté de la guérison et non pas du côté de la souffrance. Jésus fut un guérisseur charismatique doué. Et dans ses rencontres, et ses fréquentations, on sait que Jésus a rencontré toutes les catégories de personnes marginalisées socialement et religieusement, femmes incluses à l'époque. Parce que, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'est peu souvent dit, ce qui se trouve au cœur, c'est la manière dont Jésus va inverser la fonction de la pureté. Vous savez que le maintien de la pureté, aujourd'hui d'ailleurs encore pour les juifs orthodoxes, parlons du judaïsme ancien, le maintien de la pureté était pour un croyant juif absolument capital. Maintenir sa pureté, c'est maintenir la sainteté du peuple. Or, que dit Jésus, Évangile de Marc, chapitre 7. Vous aussi, dit-il à ses interlocuteurs, en l'occurrence pharisiens, ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque ça ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. Donc non pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Ce qui fait voler en éclats le principe de la cache-route. Klaus Berger, un exégète allemand, a dit à ce propos que Jésus avait modifié la pureté. Il a passé d'une pureté défensive à une pureté offensive. Je dirais, moi, il a passé d'une pureté exclusive à une pureté inclusive. Je m'explique. Défendre sa pureté, c'est se prémunir de l'autre, qui peut, du coup, contaminer ma propre pureté. Et du coup, la pureté telle qu'elle s'exerçait dans le judaïsme ancien était une pureté défensive. Il fallait que je me mette à l'abri, que je me mette à distance, que je ne touche pas. C'est la pureté défensive ou la pureté exclusive. Jésus, quand il dit « ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur », Jésus déplace le lieu de la pureté. La pureté, le croyant va la chercher dans ce qui sort de lui, c'est-à-dire dans ses paroles et dans ses gestes. C'est là qu'il va affirmer sa pureté. C'est une révolution copernicienne dans la manière de considérer la pureté. Et du coup, le prochain n'est pas celui qui est menaçant pour ma propre pureté. Le prochain, c'est celui auprès de qui je vais manifester par mon accueil, ma pureté. Passer à une pureté inclusive. Et nous avons là, à mon sens, la clé de lecture de l'activité de Jésus. Bref, je conclue sur le Dieu de Jésus. L'expérience de Dieu qu'a faite Jésus le conduit à pressentir et à proclamer un Dieu proche. Un Dieu intensément proche. Et si proche que le règne pénètre le présent et installe une pression sur l'impératif. Cette force de pénétration du règne, elle vise à faire reculer l'invasion du mal, les exorcismes, les guérisons, et d'affecter à la quête de pureté la fonction d'inclure plutôt que d'exclure. Et du coup, Jésus va relire la Torah avec l'autorité de son jeûne. Il fait voler en éclats la casuistique rabbinique en radicalisant la loi sous l'impératif d'amour, car au Dieu qui accueille inconditionnellement répond celui qui aime inconditionnellement. Je passe, second chapitre, au Dieu de Paul. On a souvent parlé d'un abîme entre Paul et Jésus. Jésus est rural, Paul est urbain. Jésus confine, à quelques exceptions près, son ministère à Israël. Paul intervient dans l'universalité de l'Empire romain. L'agir de Jésus est focalisé sur le royaume qui vient. Le concept est absent chez Paul. Il y a silence dans les lettres pauliniennes sur la vie de Jésus. L'apôtre se focalise sur la mort et la résurrection. Bref, on s'est même demandé si Paul avait prêché Jésus. De fait, un déplacement considérable s'est produit. Et pour expliquer ce déplacement, un homme que l'on connaît ici, Albert Schweitzer, a proposé une explication. Que dit Albert Schweitzer dans un livre qu'il a publié en 1930 sur la mystique de l'apôtre Paul ? Albert Schweitzer dit ceci. Jésus était focalisé sur la venue du règne de Dieu. En fait, c'était plus fort que ça. Pour Albert Schweitzer, mais ça, il n'a pas été suivi sur ce point-là, Jésus était une sorte de prophète apocalyptique ébouriffé qui attendait, prêchait et espérait la fin du monde, la destruction totale du monde, prophète apocalyptique. Or, dit Albert Schweitzer, avec Paul, nous pénétrons dans un tout autre monde, c'est le monde de l'être en Christ, en Christo. Le monde de l'être en Christ. Quelle est l'opération ? L'apôtre Paul a fait passer l'apocalyptique de Jésus, centré sur le royaume proche, à la mystique de l'être en Christ. Et donc, ce qui envahit, ce qui pour Jésus doit envahir le monde, le royaume, devient chez Paul l'être en Christ qui envahit l'intériorité du croyant. Paul aurait donc fait passer cette attente d'un basculement du monde à la réalité d'un basculement de l'intériorité du croyant. Cette thèse de Albert Schweitzer a fait l'unanimité contre elle à ce moment-là, début du XXe siècle. En particulier, par Albert Schweitzer avait dit, ça signifie que pour l'apôtre Paul, la doctrine de la justification par la foi est un cratère secondaire, un point de détail. C'était un délit impardonnable, notamment pour les théologiens allemands. Et il a fallu en réalité un demi-siècle pour se rendre compte que Albert Schweitzer n'avait pas totalement tort. À savoir que, effectivement, la justification par la foi est un argument théologique fort, mais que Paul a développé dans un second temps, face aux judaïsants, dans l'Épître aux Galates et l'Épître aux Romains. Le centre de la pensée de Paul n'est donc pas la justification par la foi, mais ça n'est pas non plus la mystique de l'être en Christ. Le centre de la pensée de Paul, c'est la théologie de la croix. C'est la théologie de la croix, qui trouve son expression première dans les lettres aux Corinthiens. Le sens étant que la croix est par excellence le lieu où Dieu se dit et se révèle. Trivialement, on pourrait dire, si on avait posé la question à Paul de Tarse, quelle est l'image de Dieu préférable ? Paul aurait dit la croix, et aucune autre. Le Jésus de l'histoire, Jésus de Nazareth, a accordé à son ministère une signification eschatologique, c'est-à-dire ultime, dernière. Par sa parole et par ses actes, Dieu se révélait de façon décisive et ultime pour l'humanité. Jésus avait cette conscience-là. Paul a bien saisi, cette dimension ultime eschatologique, mais il la focalise sur la croix. La croix lue sous l'horizon de Pâques, bien sûr. Mais c'est la croix qui est le moment décisif pour la révélation de Dieu aux hommes. Et sa théologie de la croix se lit au mieux dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, des versets que vous connaissez. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Magnifique texte de Paul. Qui dit trois choses. Trois. La première, c'est que la mort de Jésus, c'est le lieu où se brisent toutes les représentations de Dieu. La mort du Fils, c'est le lieu où se brise toute quête religieuse humaine. Paul prend pour exemple la quête juive. Il prend pour exemple la quête grecque. Il récapitule, je dirais, tout le religieux disponible au premier siècle. La demande juive d'un Dieu de puissance, la demande grecque d'un Dieu intégré à la rationalité humaine, pour les deux, dit Paul, la croix est un scandale. Affirmer que la puissance de Dieu se dit dans le silence d'un corps pendu, c'est inconvenant, c'est scandaleux, c'est ridicule, c'est inacceptable. La croix, c'est le scandale du Dieu autre. Donc la croix est non seulement, dit Paul, non seulement vient bousculer nos quêtes de Dieu et nos images de Dieu, mais elle en expose une irrecevable pour la rationalité humaine. La croix est donc un choc, un séisme dans toute image sécrétée par la quête religieuse humaine. La seconde chose qu'affirme Paul, c'est que la mort du Christ est le jugement du monde. Le monde, par sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu. Et parce qu'il cloue sur la croix le Messie venu le libérer, l'humanité révèle son égarement sur Dieu. c'est la faillite de la piété dans sa quête de salut. Mais la troisième chose qu'affirme Paul aussi, c'est que du coup, la croix devient le lieu du salut. On fait de Paul le triste héros d'un discours de péché. C'est une contre-lecture absolue. Pas du tout. Paul, c'est l'apôtre de la liberté. C'est l'apôtre du Dieu de grâce. Troisième affirmation, je le dis, la croix est le lieu du salut. C'est-à-dire que devant son échec, l'homme est appelé à recevoir ce qu'il cherchait vainement, à le recevoir comme un don, à réaliser que la grâce est cadeau. C'est ça l'affirmation de la parole de la croix. Non pas une lecture dérisoire du monde religieux, mais l'affirmation que l'homme, l'humain, ne peut recevoir le salut que comme don absolu. Et le rôle de la justification par la foi, c'est précisément d'affirmer cette extranose du salut, le salut qui est donné, qui vient d'en dehors de nous, qui nous précède et nous déborde. Le salut comme pure grâce, non pas la récompense d'une observation harassante et pointilleuse de la Torah, non pas la prime offerte à une obéissance rigoureuse, mais le salut comme acceptation de Dieu, comme pur don. Et celui qui, à mon sens, dans les 25 dernières années, l'a dit le mieux, c'est un philosophe marxiste qui s'appelle Alain Badiou. La foi consiste à reconnaître que l'homme n'est pour rien dans le cadeau de l'acceptation de Dieu. Évidemment, pour dire ça, le coup de génie de Paul, parce qu'il y a un coup de génie là derrière, le coup de génie de Paul, c'est d'avoir généralisé à la condition humaine ce qui lui est arrivé à lui, Paul, ce qu'on appelle sa conversion à Damas. Dans la conversion de Damas, Paul est effectivement tombé de haut, non pas de son cheval, mais il est tombé de son monde de valeur. Paul, le pharisien de pointe. Paul, l'homme de l'obéissance scrupuleuse et qui avait compris le scrupule de l'obéissance jusqu'à la persécution de cette marginalité juive dangereuse qu'était la foi au Messie Jésus. Paul s'est rendu compte que ce qu'il persécutait même était en réalité le Fils de Dieu. Et Paul est tombé de haut et s'est rendu compte qu'effectivement, du coup, son amour et sa fidélité à la loi le conduisaient à récuser l'initiative ultime de Dieu. Et c'est un coup de génie parce que ça ne fait pas de Paul un anti-juif. Le juif et le grec, c'est toute la quête religieuse, la quête humaine qui est en cause. Et cette révolution copernicienne, comme pour la pureté, hein, on retrouve ici un monde sans dessus dessous. Cette révolution copernicienne va conduire Paul à la fameuse formulation de Galates 3:28. Je vous lis à partir du verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus masculin ni féminin, mais ça, le christianisme a mis de la peine à comprendre. Il n'y a plus masculin ni féminin, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Si le salut est pur cadeau, si le salut est pure gratuité, Dieu accueille inconditionnellement chaque homme et chaque femme, indépendamment de son statut social, de son statut religieux, de son sexe, de sa piété ou de son impiété. Chacun reçoit la grâce qui le fonde. Paul, et encore une fois c'est Alain Badiou qui l'a si bien montré, dans son livre « Paul ou la fondation de l'universalisme », Paul a fondé la base de l'universalisme. Et vous voyez que Paul n'est pas le théologien moraliste. J'ai essayé justement, le petit livre que j'ai écrit Paul de Tarse, un homme aux prises avec Dieu, j'ai essayé de montrer à quel point Paul n'est pas le théologien moraliste dont malheureusement sa mauvaise renommée l'afflige. C'est Paul reconduit constamment, mais relisez les épîtres, Paul reconduit constamment le croyant à son identité, à ce qu'il est devenu, pas à ce qu'il doit faire, à ce qu'il est devenu devant Dieu, l'homme accepté inconditionnellement, comme il n'est même pas capable de s'accepter lui-même. Le Dieu de Paul. Je conclus. La grande différence avec Jésus, c'est que Paul, alors que Jésus parlait du Dieu qui vient, Paul parle du Dieu qui est venu. Et déplaçant le caractère ultime de la venue de Dieu en Jésus à la mort et à la résurrection. La théologie de la croix chez Paul, c'est un choc. C'est un choc face à toute quête religieuse humaine. Toute image doit être mesurée à la présence énigmatique de la toute-puissance de Dieu dans la fragilité d'un corps brisé. Et ce Dieu de toute grâce est instaurateur de liberté. Parce que l'homme est libéré de lui-même. Il est libéré de la pression de réussir. Parce qu'il est accepté inconditionnellement par Dieu. Il faudrait en parler si longtemps de ça. Mais je passe au Dieu de Jean. Jean partage avec Paul ce qu'on appelle le saut pascal, le fait que sa lecture est une lecture de l'événement Jésus-Christ rétrospective après Pâques. Et il en est d'ailleurs encore plus marqué que Paul, parce que Paul est un homme de la première génération chrétienne. Jean est un homme de la troisième génération chrétienne. Et le ressort de la théologie johannique, c'est de réinterpréter l'événement Jésus-Christ qui est configuré par une tradition, on connaît, c'est la tradition synoptique, qui est déjà reconnue comme classique. Donc, l'évangéliste Jean va faire preuve de créativité, à la fois littéraire et théologique, pour redire Jésus-Christ et la venue de Dieu en Jésus-Christ, pour le redire à une chrétienté déjà un peu lassée par la répétition de la tradition. Et Jean partage avec Paul l'idée que la venue de Jésus bouscule nos images de Dieu. Pour Paul, c'est la croix comme folie de Dieu, contre la sagesse humaine. Chez Jean, il y a aussi une crise de la connaissance. C'est-à-dire, il y a aussi l'affirmation que la venue de Dieu en Jésus vient bousculer les images, mais Jean va le dire sous forme narrative. Et en utilisant deux techniques littéraires, le malentendu et l'ironie. Le malentendu. Vous connaissez l'histoire de Nicodème, Jean 3. Nicodème à qui Jésus parle de naître de nouveau, ou naître d'en haut. Le terme grec anoton veut dire les deux. Hein? Mais Jésus dit en Jean 3 à Nicodème, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et Nicodème ne comprend pas en disant, mais comment est-ce qu'on peut naître une seconde fois? Il bute sur le sens premier, sur le sens matériel de l'expression, alors que Jésus use d'un langage symbolique. Il faut passer à un niveau de sens plus profond. Et c'est aussi le ressort de l'ironie. Le quatrième évangile est saturé d'ironie. Je vous en donne une. En Jean 18, 14, quand Caïphe, c'est dans le récit de la Passion, Caïphe, le grand prêtre, dit « Il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple. » Cette déclaration de Caïphe, c'est du cynisme politique. Il vaut mieux qu'un homme soit exécuté plutôt que le peuple d'Israël ait des ennuis. C'est du cynisme politique. Mais le lecteur chrétien du quatrième évangile, c'est qu'il y a un sens caché là-derrière. Qu'il y a un double entendre nécessaire. Et qu'en réalité, Caïphe dit le vrai sans le savoir. Qu'effectivement, Jésus va mourir pour le peuple, pour tout le peuple. Donc l'ironie johannique consiste en fait à inviter le lecteur, dans un double entendre, à passer derrière les mots pour découvrir le sens théologique, ce que les pères de l'Église appelaient le sens spirituel. Ce qui veut dire qu'il y a un double entendre nécessaire pour percevoir cette lecture théologique de la réalité et pour percevoir la manière dont Dieu subvertit le réel. Donc, pour Jean, que Dieu se manifeste dans le monde n'est pas perceptible dans l'immédiateté, mais seulement à une lecture seconde de la réalité. Qu'est-ce qui permet cette seconde lecture ? Qu'est-ce qui permet de passer derrière les images, derrière les mots ? Eh bien, Jean le dit par la figure originale du paraclet, qui se déploie dans les discours d'adieu. Paraclet, qui est une dénomination de l'Esprit Saint, ce que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, il vous enseignera toutes choses et il vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le paraclet assure l'anamnèse des paroles de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie sinon que l'image de Dieu échappe à ce monde ? Qu'il faut scruter la réalité du monde pour découvrir la manière dont Dieu agit. Et que cet effort de décryptage, découvrir Dieu, requiert l'action du paraclet. En fait, j'ai dit de Paul qu'il était l'homme du choc. La présence de la toute-puissance de Dieu dans la fragilité de la croix, c'est un choc pour toute quête religieuse humaine. Jean n'est pas l'homme du choc. Jean, c'est un guide. C'est un guide vers la profondeur de Dieu. À lire le quatrième évangile, vous comprenez que croire n'est pas une révolution, comme dirait Paul. Pour Jean, croire est un chemin. Et il y a là un apprentissage qui commence par le dépaysement. Il faut se laisser dépayser pour passer derrière la surface des choses et y découvrir Dieu. Voilà ce que le guide Jean nous propose. Alors, je vais terminer d'ailleurs par là. En quoi consiste ce dépaysement qu'on pourrait appeler ce recadrage ? Trois éléments. Jean va mettre en avant le mystère de l'incarnation. Jean va affirmer que le salut est vie et Jean va dire que la croix est le triomphe de Dieu. Les trois dépaysements auxquels invite cet évangile. Le premier, c'est prendre la mesure de l'incarnation. Vous connaissez le prologue. Vous connaissez le prologue de l'évangile de Jean ? Au commencement était la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Tout fut par elle. Et rien de ce qui fut ne fut sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point comprise. C'est un magnifique hymne traditionnel que l'évangéliste a placé en tête de son évangile. C'est pas du tout une introduction à l'évangile, hein. Faut pas croire. Pas une introduction. Le prologue, c'est la clé de lecture de l'évangile. Si vous n'avez pas compris le prologue, vous n'avez rien compris à l'évangile. Faut vous arrêter là. C'est ce qu'on appelle en narratologie un pacte de lecture, qui dit le statut du héros de ce récit. Ce héros, l'homme de Nazareth, est, dit Jean, tout au début. Il est l'incarnation de la parole éternelle. Il est l'incarnation de cette parole créatrice dont l'origine remonte avant la fondation du monde. Autrement dit, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera dit des heures et des malheurs de cet homme, Jésus, est à comprendre à partir de son identité d'être où se reflète la gloire du Dieu éternel. Et inversement, et ça c'est très important, celui qui veut comprendre la gloire de Dieu, celui qui veut comprendre la gloire du Dieu éternel, est assigné à suivre les heures et malheurs de l'homme de Nazareth. Rien ne peut être dit sur l'être de Dieu qui ferait l'économie de ce récit de vie et de mort, de rencontres et de controverses. J'en pose un passage obligé. Aucune image ne peut désormais être appliquée à Dieu qui ne soit à l'exacte mesure de la destinée de Jésus de Nazareth. Donc le prologue de Jean installe un sine qua non, une condition de validité. C'est le récit de l'Évangile qui devient la médiatisation de nos représentations de Dieu. Deuxième dépaysement, reformuler le salut en termes de vie. Vous savez quel est le premier des sept signes, le premier des sept miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean? C'est Cana. L'eau changée en vin. De quoi en va-t-il? Il en va d'une fête qui vire au cauchemar. Et cette fête de mariage qui vire au cauchemar, parce qu'il n'y a plus de vin, c'est la métaphore de la vie. De la vie humaine agressée par l'échec, agressée par le manque, par la pénurie, par la précarité. Cette transformation de l'eau en vin ne doit pas être trop vite spiritualisée. Elle est bien sûr symbole, oui. Elle est symbole de la restauration d'une fête, de la fête de la vie. Restauration de la vie dans sa plénitude. Et placée tout au début de l'Évangile, chapitre 2, est la valeur programmatique. Elle condense tout ce que Jésus va instaurer. Pourquoi il va se battre? Pourquoi il va agir? Pourquoi il va affronter ses adversaires? Pourquoi il va accepter la perspective de la mort? C'est pour réintroduire la vie là où nous sommes agressés par l'échec, par la pénurie et par la mort. Et il n'est pas un hasard que l'ultime signe, le septième, soit précisément la réanimation de Lazare. La vie rendue au cadavre. Une restauration de la vie qui va coûter la sienne à Jésus. J'insiste parce que, du coup, l'évangile de Jean reformule le salut en termes de vie. Vous savez, si vous faites en règle de trottoir, salut c'est quoi? Vous avez envie du salut? J'ai l'impression que le radio trottoir à la gare de Lyon-Pardieu ne donnerait pas des résultats brillants. Le salut est devenu langue de bois. Dans l'évangile de Jean, c'est le terme de la vie en plénitude. Et j'insiste parce que ce motif de la vie relie toutes les métaphores christologiques de l'évangile. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le cep, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Restaurer une vie pleine, la vie savoureuse voulue par le Créateur, que le monde est en train de ruiner et qui casse les espérances humaines. Cette redéfinition du salut, qui n'est plus un bien de consommation eschatologique, qui n'est plus arraché à l'eschatologie futuriste, qui est rapatrié dans le présent. Et c'est dès lors toute l'anthropologie qui est convoquée. Le salut est un être bien. C'est un être bien, une réalisation de soi devant Dieu, une réussite. à l'école du quatrième évangile, nous ne devrions pas hésiter à recourir aux images savoureuses, attractives, pulpeuses, pour dire Dieu. D'ailleurs, la vie éternelle, chez Jean, n'est pas un bien futuriste, mais elle commence, comme vous le savez, aujourd'hui. Et c'est cette vie qui n'est pas détruite par la mort. Là aussi, Jean va rapatrier la vie éternelle du fond des âges pour l'installer au cœur de la vie. Et comme dit ce théologien catholique suisse Maurice Zundel, il s'agit pour nous d'éterniser la vie, c'est-à-dire d'implanter dans notre vie ce qui lui donne son poids d'éternité. Le troisième et dernier recadrage, car le temps presse. Le troisième et dernier recadrage, mais il nous est connu, c'est l'interprétation proprement johannique de la croix. La croix, manifestation ultime de la gloire de Dieu. La croix, chez Jean, c'est le sommet de la glorification de Dieu. Parce que Jean a télescopé Vendredi Saint et Pâques. La lumière pascale dans le quatrième évangile transfigure l'obscurité de Vendredi Saint. Ce que les évangiles synoptiques placent dans la succession chronologique, Vendredi Saint puis Pâques, Jean le télescope en un même événement. La croix, c'est le triomphe de la vie donnée par amour. Et Jésus meurt en disant « Tout est accompli ». Je parlais de scruter le réel pour parvenir à la lecture théologique. Eh bien, la mort de Jésus en est un exemple achevé. Discerner le triomphe de Dieu dans un corps livré à la violence religieuse. Voilà ce à quoi invite le quatrième évangile. Et c'est le paradoxe absolu. Le lieu de l'agonie du Fils, c'est le trône du Fils. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'image de Dieu ? Ça nous dit que Dieu est à chercher ultimement dans ce qui apparemment le nie. Que Dieu est à chercher, comme disait Luther, sub contrario, c'est-à-dire dans son contraire. Que les pleurs de l'enfant, que le désespoir de la mère ou le silence du père disent autant Dieu qu'un visage épanoui. Je conclue. Contrairement à ce qu'on lit parfois dans des propos mal inspirés, Paul n'est pas l'opposé de Jésus. Et Jean n'est pas l'opposé de Paul. Paul et Jean sont deux brillants interprètes de Jésus de Nazareth. De ce que j'ai appelé son règne, le règne de Dieu, productif et paradoxal. Chacun, Paul et Jean, l'a fait dans ses catégories de pensée. Mais chacun a rendu compte de la dimension ultime, eschatologique, que Jésus attachait à sa venue. Puisque désormais tout discours sur Dieu, d'image de Dieu, reçoit pour norme indépassable la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Alors à l'école de Paul, nous sommes invités à cribler notre imaginaire religieux pour faire état de l'inconcevable fragilité de Dieu. Et à l'école de Jean, nous sommes conviés à rendre compte d'un salut immergé dans l'épaisseur et dans la saveur de la vie. Je vous remercie de votre attention.